non pas sublimer, non pas transfigurer pour évacuer l'apparence érotique, c'est pas le mot ici, bien sûr, mais l'apparence simplement d'un poème d'amour pour parler de choses spirituelles et pas de choses de la réalité amoureuse, si vous voulez, mais pas d'emblée nous dire de quoi il s'agit, c'est quand il y a eu vraiment cette rencontre bouche à bouche dans la révélation de l'amour. Et c'est pourquoi ce régime des deux niveaux, lorsque c'est embrayé dans le réel de la rencontre, Nechiko, et lorsque c'est par la médiation d'une connaissance, fut-elle mystique, Yahin, c'est Dara, Sod, etc., eh bien, cela est parlé à propos de l'amour. Qu'est-ce qui passe entre le créateur et la créature pendant tout le temps de ce monde-ci? Eh bien, c'est la parole de la Torah, c'est-à-dire ce que le Créateur a me donné comme consigne du mode d'emploi de la vie, ce que la créature a demandé comme consigne du mode d'emploi de la vie. Ça, c'est simplement l'introduction. Bref, pour situer le sujet, nous reviendrons sur le caractère très très fin de l'analyse du Gaon, ici, et nous aurons en même temps l'illustration de la coïncidence entre la forme et le fond. Okay, très rapidement, si c'est dans le thème. Fille de Jérusalem.
Pourquoi est-ce qu'il y a un commentaire? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de s'adapter? Lorsque c'est un dialogue entre deux personnes, pourquoi parle-t-elle de
quelque chose? Oui. Je crois que nous avons fait allusion, je ne sais pas si c'est hier ou avant, ou avant-hier, lorsque j'ai parlé de ce thème de l'impérialisme spirituel d'Israël. À partir du moment où j'ai essayé de prendre les choses très fondamentalement, vous me confirmerez si c'est l'expérience de tout un chacun. À partir du moment où une femme se sait aimée, elle a exigence qu'on le sache. Hein? Israël se sait choisi, on ne peut pas ne pas le dire. Bon, mais ça, ce n'est que c'est clair, là, c'est le commencement des choses. À partir du moment où j'ai appris que la vie a un sens, je ne peux pas, si je suis conforme aux vertus et aux valeurs qu'implique ce sens de la vie, je ne peux pas le garder pour moi tout seul. Vous savez, ça ressemble probablement à un autre type de question qu'on se pose souvent. Pourquoi Dieu a créé le monde? À partir du moment où l'être est vrai, il ne peut pas ne pas se communiquer. Ça veut dire, il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème. Qui est vivant sait qu'il n'y a pas de problème théorique, il n'y a qu'un problème pratique. C'est clair ce que je dis. C'est-à-dire que la question que vous posez se pose théoriquement. Mais l'histoire nous montre qu'il n'y a en réalité pas de problème théorique. Israël n'a pas pu faire autrement que de proclamer, que de clamer. Vous savez, il y a une bonne nouvelle à entendre. La vie a un sens, le monde n'est pas absurde, il y a quelqu'un et il m'a parlé. C'est pas un peu comme dans les petites rubriques de comment il s'appelle celui-là dans Figaro, Dieu exige, je l'ai rencontré, c'est pas ça. C'est pas ça. Bien. Et votre question est pourquoi il y a ce changement d'attitude? On parle à l'humanité et puis il y a des apartés entre lui et elle.
L'impossibilité d'avoir la double relation simultanément entre Dieu et l'homme, en fait, est-ce que c'est pas l'origine? Parce que c'est pas à l'origine de la marque locale.
Quelle marque?
Comment? Est-ce que c'est pas la cause profonde, si vous voulez, de l'empêchement de l'éclat qu'on peut.
Attendez, qu'est-ce que vous dites? À quoi vous faites allusion la marque locale? Quelle marque locale?
La marque locale de Korah.
Ah, de Korah. Expliquez-moi ce que vous
voulez. C'est-à-dire, si vous voulez, il me semble que l'empêchement que l'homme a de la marche au quête, c'est l'empêchement qu'il a de connaître la voie d'une manière absolument précise. Hein, et il y a toujours une
discussion. Très bien, moi, il y a quelque chose de cet ordre. Je voudrais le dire très très rapidement. C'est que dans tout ce qui est halakha, les moshé, missina, il n'y a jamais eu de marche au quête. C'est-à-dire, dans tout ce qui est transmis avec consensus unanime, que cela vient de la révélation du Sinaï, il n'y a jamais eu de marche au quête. Bon, en réalité, c'est pas si simple que ça. Dans beaucoup de grands livres de la halakha, on voit qu'on trouve même des marloquets dans ce qui est halakha les Moshé Sinaï. Ceux qui étudient, si vous connaissez le grand livre des Chérit Chouvot du Chavot Yahir, le Chavot Yahir cite 100 à 150, une cent cinquantaine de cas de ce genre, ou bien que ce soit Halakha le Moshe Mishnaï, on trouve Mahloket entre le Tanaïm. La règle qu'a expliqué Maïmonide, c'est que le Halakha le Moshe Mishnaï, il n'y a jamais eu d'oubli. La Mahloket vient lorsqu'on a oublié la forme dans laquelle ça s'est transmis. Mais lorsqu'il n'y a pas oubli, alors il n'y a pas de Mahloket. Ça va un peu dans le sens de ce que vous dites. C'est-à-dire, lorsqu'il y a révélation directe de Dieu, pas par porte-parole, il y a unanimité. Il n'y a plus de Mahloket, il y a unanimité. C'est ce que le texte même de la Bible, dans le livre des Shemot, indique. Que le peuple au pied du Sinaï était une, Vaïchad. Le peuple était un. Parce qu'il y a révélation.
Et les huit commandements célestes, c'est pas un hasard qu'ils sont dit que c'était.
Non, ça ne commençait pas, hein. Vous allez me donner des commandements. Alors, il est au problème. D'ailleurs, il est presque 11h moins 8. Alors, nous avons dans le texte. Et je vais prendre la main où nous sommes arrêtés. Prenez-le là, à peu près. Tim, Shne, Iberot, Arishonot, les deux premiers commandements, et Flan, la Torah, sont le principe de toute la Torah. Dis-le avant la fin. Ben oui, on a. Voilà.
C'est deux pareils ou c'est. Parce que.
Non, ça va. Voilà. Alors, parce que les deux premiers commandements, c'est le principe de toute la Torah.
Pourquoi je n'ai pas
acheté ? C'est pourquoi pas acheter un libéraux ?
Il y a marqué
acheté. Il y a acheté une fois et je n'ai la deuxième fois.
Oui, il faut faire trop prêter attention à ces problèmes de grammaire dans ce genre de commentaires, parce que ça dépend des éditeurs. Non, je veux dire, on peut restituer le style exact, mais on est très prudent parce que parfois il y a une intention de l'auteur qu'on ne perçoit pas. Il faut attendre de trouver si un commentaire n'a pas éclairci, pourquoi il y a féminin ici et masculin là, alors qu'on s'attendrait à la même. Vous trouvez tout ça presque à chaque ligne dans le Mahara. Bien. Mais votre question se pose, mais je ne peux pas y répondre maintenant. Et parce que c'est tout un problème de ces mots qui ont la forme masculine, mais le pluriel féminin ou l'inverse. C'est tout un problème. Bien. Je n'ai dit que votre arichonot, c'est un plan pour la Torah. L'un dans le principe de mitzvot assé, et l'autre dans le principe de mitzvot lota. Vous connaissez cette catégorie, ce principe. Il y a deux aspects à la catégorie de l'obligation, du commandement dans la Torah. Ce qu'il y a à faire. Et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, c'est le même commandement en deux expressions, l'une positive, l'autre négative, comme on dit habituellement. C'est bien moi qui suis Hachem, ton Dieu. Je voudrais éclaircir cette relation de révélation ici, de dévoilement. Et voilà ce qu'Israël entend, c'est que le Créateur du monde est relié en lien de divinité, de providence, avec en particulier cette manière d'être homme qui a accepté de faire comme constitution de sa propre destinée le projet du Créateur et rien d'autre. Bon, j'ai dit peut-être trop de choses, pas assez dans cette formule, mais vous voyez de quoi il s'agit. Il y a une alliance particulière entre le Créateur du monde et une histoire d'une lignée, d'une manière d'être homme parmi les autres, parce qu'il y a eu initiative de la part de cette manière d'être homme de s'engager à cela, qu'il n'y a absolument aucun décalage entre le projet du Créateur pour le monde et ce que sera ma destinée. Alors que les autres lignées humaines se différencient, entrevoient, envisagent, projettent pour eux-mêmes et pour leur propre histoire une manière possible d'être la créature. Parmi toutes ces manières possibles d'être la créature, toutes géniales, il y en a une qui décide de coïncider avec le projet du Créateur lui-même. Cela et rien d'autre. C'est cela l'aventure d'Israël. Alors lorsque cela a émergé de l'histoire humaine, le Créateur du monde se révèle à cette manière d'être en lui disant « Moi !» Je serai ton Dieu. C'est-à-dire, je te servirai de Dieu. À la manière dont chaque peuple a son génie propre et son Dieu. C'est ce que vous demandez. Et ça, c'est le dévoilement positif. Anochi Hashem Elokecha. Et donc, corollairement, donc tu n'en auras pas d'autre. Vous voyez, le deuxième commandement est corollaire étroitement du premier. Alors, toute la Torah dans le mitzvot assez, c'est prendre comme Dieu la volonté du Créateur, mitzvah d'ota assez, ne fait pas tout ce qui serait soumission, asservissement, imitation de quoi que ce soit d'autre.
comme projet d'histoire. Verdoua, c'est chez Mim Panim Lazov. Or, il est connu d'autre part qu'il y a 70 visages à la Torah. Au sujet de ce point très précis qui a été touché par, hier par M. Rovski, qu'il y a pluralisme dans le pharisaïsme. Vous vous rappelez de ça, hein? Vous voyez quelle est, où est la formule. Chez Mim Panim Lazov. Mais faites bien attention, ça ne veut pas dire qu'il y a arbitraire, ça ne veut pas dire que tout est permis. Ça ne veut pas dire qu'il y a, comment dire, subjectivisme absolu. Vous connaissez aussi la formule de la Braïta qui est extrêmement importante. Kol ha-megale panim batora, shelo kahalacha, en lo chelek la'olam haba, frappis yesh lo Torah mitzvot. Je traduis, tout celui qui dévoile des visages de la Torah qui ne sont pas selon la règle, qui ne sont pas selon la halacha, qui ne sont pas selon, il faudrait dire, l'orthodoxie, en prenant le sens logique, n'a pas de part au monde à venir, même s'il a connaissance de la Torah et pratique des vertus. Ça, on sent bien que c'est désigné contre le sadducéisme. C'est-à-dire que l'homme, avec sa capacité et intellectuelle et spirituelle, peut faire apparaître des visages de Torah qui sont possibles, mais qui ne sont pas autant... Non, comment dire, c'est pas le mot. Qui sont possibles, qui ne sont pas souhaitables, disons. Qui ne sont pas dans l'ordre de la halakha. Ça, c'était une raison à expliquer. Qui ne sont pas dans l'ordre de ce consensus qu'il y a, d'une part entre les sages d'Israël entre eux, et d'autre part entre les sages d'Israël entre eux et la volonté de Dieu. En cela, la yeshiva d'en bas et la yeshiva d'en haut, l'académie d'en bas et l'académie d'en haut. Déjà, dans l'académie d'en bas, pas tout n'est cachère, tout est pensable, mais pas tout n'est cachère. Bon. Et puis d'autre part, il faut qu'il y ait aussi accord entre la Torah comme elle est connue en haut, et la Torah comme elle se connaît en bas. C'est-à-dire, ne croyez pas que, je pense que M. Rosky sera d'accord avec moi, ne croyez pas que l'autonomie de la pensée dans l'attitude pharisienne, ça veut dire hefker. Ça veut dire on a le droit de penser n'importe quoi, à condition qu'on puisse faire semblant que c'est dans le texte. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut, de ce texte, il est tellement fécond qu'on peut faire surgir tous les visages. Mais il y a des visages qui ne sont pas selon la halakha. Je crois que c'est bien la position sadducéenne qui a été visée. Qui précisément, dans son souci de littéralité, la grille particulière du sadducéen, c'est la littéralité de la traduction, okay, eh bien c'est précisément le piège, c'est-à-dire lire une traduction qui n'est pas du tout l'intention de celui qui s'est révélé dans ce texte. Je pense que c'est clair. Et c'est l'aveu qu'on n'a pas de tradition, que cette traduction cache la non-tradition, si j'ose dire. Okay. Et les sadducéens se sont perdus, mais la tendance sadducéenne est permanente. Et elle revient à chaque étape de l'histoire. Bien, les sadducéens de l'histoire avaient une conception du monde prestigieuse, celle de l'hellénisme. Les sadducéens contemporains, eh bien, le monde de la culture générale passe tellement rapidement de mode en mode intellectuel que les sadducéens contemporains, si j'ose dire, n'ont même pas le temps d'arriver à la maturité. Dès qu'ils commencent à élaborer leur système, il y en a un autre qui les culbute. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est déjà une grande difficulté de la relation à la culture générale, dans le sens de Chimim Panim la Torah, et Chimim mettant la multiplicité des nations, après les grands du Moyen-Âge. Je crois qu'on pouvait mettre en évidence le principe suivant. Tant qu'il y avait un système dominant dans la culture générale, la synthèse entre la tradition et la culture générale de l'époque était aisée à formuler dans un système particulier. Ça a été le cas, probablement le dernier grand cas, c'est tant que la philosophie d'Aristote était la philosophie dominante, vraiment, dans la culture générale. Mais à partir du moment où, dans la culture générale, eh bien, il n'y a plus un système dominant, mais plusieurs possibles, alors c'est là qu'il y a eu éparpillement, aussi dans cette espèce de culture de relation, d'expression mixte, qu'était la théologie lorsque elle se formule dans le langage et dans le système de la culture générale extérieure. Enfin, je me suis un peu mal exprimé, mais je pense que l'idée passait quand même. Ça veut dire, aujourd'hui, il est très difficile à un penseur juif de dire voilà ce que le judaïsme a à dire par rapport à la culture générale. Où est la difficulté ? Laquelle est la culture générale ? À la mode comment ? Dans le mode ? Dans la modalité ?
L'éclatement de l'atome.
Oui, la culture générale a éclaté, si vous voulez, et par conséquent, il est difficile de... Chaque fois, si vous voulez, qu'un un penseur juif contemporain se formulerait par exemple par rapport au système de Kant. Il se découvre par rapport aux autres systèmes. Et par permutation circulaire, vous voyez à quel point il est difficile de trouver un Maïmonide contemporain, parce que Maïmonide avait en face de lui la philosophie dominante du temps. Aujourd'hui, quelle est la philosophie dominante? Vous comprenez? Et dès qu'on est occupé à formuler une synthèse, elle est tout de suite caduque. C'est ça ce que je voulais dire.
Peut-être
l'idolâtrie scientifique. Vous voulez dire le scientisme, par exemple.
Peut-être le judaïsme a-t-il à se situer par rapport à l'idolâtrie scientifique.
Ah oui. Expliquez plus, peut-être. Dites quelque chose.
Je veux dire qu'actuellement, c'est la pensée scientifique et la méthode scientifique qui sont les deux objectifs, donc, par rapport à la subjectivité de la relation d'Israël avec la Torah, crée ce problème.
Oui. Pas plus tard qu'hier, nous avons réfléchi à cela comme un sujet possible de séminaire, d'ailleurs. Effectivement, c'est pas faux ce que vous dites là, c'est-à-dire la vision du monde qui procéderait d'une épistémologie purement scientiste. Qu'est-ce qui est scientifique? Pardon, ça voudrait dire?
Oui.
Mais il a des formes nouvelles actuellement. Il a des formes nouvelles. Voilà ce que je veux dire. Il est arrivé à sécréter un paganisme nouveau qui n'existait pas dans les générations précédentes.
Mais c'est le temps atomique, justement, où tout éclate.
Tout, diasporique.
C'est ça.
Quand ça éclate, c'est diaspora. C'est
oui, à ce propos.
Même dans les esprits.
Pensez à Mono. Bien non, mais c'est enregistré, tout là. On
entend pas. Le système auto-organisateur, dans cette même salle, nous avons eu une conférence il y a quelque temps sur le système auto-organisateur, dans la position à plan, qui s'est donné que la vie pouvait être née du hasard, filtrée par des systèmes auto-organisateurs. C'est-à-dire, finalement, on renvoie l'idée de Dieu de la pandémie dans le hasard.
Oui, et cet exposé était dans quel sens?
Purement sulfureux.
Bon, c'est pas ma question.
Oui, mais... sulfureux.
Je crois dans la discussion qui a lieu en ce moment, c'est une discussion pour savoir s'il y a un point central où peut se rencontrer et notre tradition et la Torah et les cultures, que ce soit science, que ce soit philosophie, que ce soit, n'est-ce pas,
oui.
S'il y a un point central,
oui. S'il y a un langage commun entre la tradition juive d'une part avec toute sa diversité et d'autre part la culture générale avec toute sa diversité, parce que la difficulté étant qu'il y a différents systèmes dans la culture générale.
Alors je pense qu'il est possible de trouver une intersection.
Voilà, c'est ce que l'on cherche.
Un dénominateur commun.
Il y a une intersection sur quoi il faut faire porter les efforts et qui, je pense, est le centre de tout.
C'est
quoi?
Ça fait un moment que j'essaye de parler, mais je crois que c'est pas encore là.
C'est-à-dire que vous êtes en réflexion, quoi.
Non, je dis que ça passe pas.
Attendez.
Ça, c'est pas
cristallisé. Je n'ai pas compris du tout. Vous savez déjà ce que vous auriez à dire.
Oui.
Oui, bon, mais c'est la question qu'on vous pose. Ça cherche où, ce centre d'intersection?
Si je parle, ça risque de tomber à l'eau. Maintenant, je veux dire que...
D'accord.
Parce que ça dépend... ce que je cherche depuis quelque temps, c'est de voir, si vous voulez, quelle est l'oreille qui écoute. Et tant que je ne trouve pas l'oreille qui écoute, je ne peux pas parler. N'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas, peut-être ça peut vous dire quelque chose, ça.
Ça, je comprends ce que vous dites.
Bon,
mais alors, est-ce que pour vous, c'est déjà clair? Est-ce que pour vous, c'est déjà formulable?
Oui.
Bon, ben c'est ce que je voulais savoir. Tous les espoirs sont permis. Là, et vous pensez que ça va dans le même domaine?
Sauf que non. Si, mais sauf que quand il dit science ou scientisme, c'est restreint par rapport à ce que je veux dire, c'est pas le centre. Le centre, c'est pas le rapport Torah-science, c'est pas le rapport tradition-science. Le centre, il est ailleurs.
Et vous pouvez pas dire encore.
C'est une action.
Oui.
Je dis, et puis je dis, ça va pas être compris, n'est-ce pas? Mais tant que ça soit dans le rapport qu'il y a entre le mot et le sens, par exemple. D'une manière très générale. Le rapport qu'il y a entre le langage et la pensée. Le rapport qu'il y a entre la pensée et nous. Le rapport qu'il y a entre la chose qu'on regarde, n'est-ce pas, et que cette chose soit la Torah, le texte, que ce soit le texte des événements vécus, que ce soit le texte de la pensée aussi, c'est un texte, n'est-ce pas, et dans ce rapport-là, entre quelque chose qui se présente comme un texte qu'on a à lire et qu'on comprend d'une certaine façon, il joue quelque chose. Bon, alors, j'ai dit tout à l'heure à Amshalom, Etzel Lacan Garti. N'est-ce pas? C'est pas important, on joue avec les mots. Seulement, là, c'est en train de jouer avec les mots, avec la lettre. dans cette région-là, n'est-ce pas? Ça joue avec la lettre. Et peut-être pourquoi il ne pouvait pas, Jacob, il ne pouvait pas prendre machine et partir comme ça sur son coursier, parce qu'il y avait un travail à faire pour l'emporter. Il ne pouvait pas, moi je peux vous dire, il ne pouvait pas la prendre comme ça. Il fallait faire un travail pour partir avec.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est un détail. C'est un détail. Vous voulez dire au fond que... Vous voulez dire que le problème essentiel tourne autour du problème du langage, dans tous les cas. Bon, ça, je pense que tout le monde sera d'accord.
Langage parlé ou langage de pensée?
Oui, ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec vous. Mais vous prenez le problème de façon particulière en sémantique, sémiologie ou plus large.
D'accord.
Je veux simplement donner une petite indication pour montrer l'importance de ce thème. C'est au point de départ, la première définition que la Torah donne de la personne humaine, c'est la capacité de langage. Que l'homme, c'est le Hayam Daber. Par conséquent, on revient un peu, peut-être de façon paradoxale.
Hayam Daber. Je peux faire des jeux de mots auxquels je ne crois pas, franchement, je ne crois pas. Mon prénom, c'est Hay.
Ah, ouais.
Ouais, voilà, non, mais j'y crois pas. Je veux dire que ça, c'est des façons d'essayer de dire que je voudrais parler sérieusement. Je vous ai dit le premier jour, je plaisante parce que c'est sérieux. Voilà, c'est tout.
Ah, mais ça, vous avez raison. On fait tout ça, parce que sinon, on s'en sort pas.
Voilà, je plaisante, je m'amuse, oui. Je rigole. Oui. Voilà.
Non, mais attention, vous ne vous appelez pas Sidi Haï.
Non.
Bon, vous avez connu Sidi Haï?
Non.
Non, il n'y a pas de Constantinople.
Mais il y avait un Haï Tayeb à Tunis que je n'ai pas connu, dont j'ai entendu parler comme ça. Vous avez entendu parler de...
Non, j'ai entendu parler de Sidi Haï Halimi de Constantinople. Un grand air. Bon, alors, revenons la parenthèse. Bon, c'est vrai, c'est un... Maintenant, je suis... Bon, il y a eu une discussion à intervenir. Ça ouvre des perspectives de fatalité pour la loi des temps. Parce que ça voudrait dire que le récit a posteriori nous ferait comprendre à propos de l'histoire de Jacob, et bien qu'il fallait attendre jusqu'au bout, jusqu'à une extrémisme, jusqu'à. Ma question serait ainsi, et pourquoi il a fallu tant de temps pour ce travail? Je vous renvoie pour votre
question. Parce que je n'ai pas écouté ma mère ou mon père.
Non, je vous renvoie. Non, parce qu'il y a un autre texte dans l'histoire de Jacob.
Je ne veux pas m'engager dans la
question. Ah non, je n'ai pas accroché la question quelque part. Oui. Je l'ai laissé en l'air. Il y a un autre texte dans l'histoire de Jacob. Lorsque Jacob a eu à préparer les deux chevreaux pour pouvoir remplacer Ésaü, okay, et que son père lui a dit, mais tu as très vite fait. Tu as si vite fait. Et voilà ce que Jacob lui répond. Ton Dieu m'a fait apparaître les choses vite. Hachem elokecha ikra alai. Vous voyez, il y a une réponse dans cet autre texte. Enfin, vous reconnaissez les deux textes. Ça aurait pu être aussi fait. C'était donc le problème d'hier, en fermant la parenthèse, de Vayeyu Be'enav ke Yamim Mahadim. C'est ces fameux Yamim Mahadim. C'est très important de voir qu'il y a deux fois le mot Ahadim. À propos du langage aussi, à propos des jours et à propos du langage. Vous suivez? C'est le premier verset du chapitre 11, si je me souviens bien. C'est où? Si ce n'est pas le chapitre 11, c'est le chapitre 12, on peut vérifier. Vayi kol haaretz safa ahat udvarim ahadim. Ahadim pour les paroles, le langage, et ahadim pour les jours. Si le travail du langage va vite, regardez comment on va vite, hein. Si le travail du langage va vite, alors les jours seront aussi. Le temps va plus vite aussi. Bon, on va faire un ridouche à nous deux. Alors revenons au problème. Mais en tout cas, personnellement, je continue à être d'accord avec moi-même que tout ça, ça a pris trop de temps, c'était effroyablement long et on a payé cher avec des trop chers. C'était trop long, et trop cher. Revenons. Et alors, voilà ce que dit le Gaon. Mais il y a deux arts, chez Shivim, Panim, la Torah. Provaquam, chez Roshev, Shivim, la Hem, Shneklaim. Mais sachons, nous dit que partout, où le texte nous donne le nombre de 70. Ce nombre de 70 pour nous dire la multiplicité. La multiplicité des langages de base, la multiplicité des visages des nations, des différentes manières d'être homme, et donc la multiplicité des visages de la Torah correspondante à la multiplicité des manières d'être. Eh bien, il y a quand même deux principes directeurs. Il y a, comment dit-il, Yesh Lahem, Shnei Klalim. Par exemple, dans le cas de la multiplicité des nations. Alors, retenons donc les catégories de base. Le chiffre 70, Aïn, ça renvoie à la notion de multiplicité. Mais cette multiplicité n'est pas désordonnée, ce n'est pas un chaos pur et simple de l'atomiser, le diasporique dans le sens étymologique, mais il y a organisation autour de deux principes de base. Et par exemple, dans le domaine des 70 nations, Réfé Abdin, Sira, pour les 70 nations, il va s'agir de Esaü et Ishmael, on va nous le dire tout de suite. Vechen le Abdil, Aïn Shemot Aklalim, et ainsi le Abdil. Ça veut dire, en prenant toutes les précautions qu'il faut pour faire cette comparaison, il y a 70 noms de Dieu, du Dieu unique, correspondant aux 70 visages du dévoilement de sa volonté, de sa providence pour les 70 manières d'être la créature, que sont les 70 nations. Mais il y a quand même deux noms de base, ici le Gaon fait allusion à des secrets de la Kabbalah, et qui sont Ani Vahu, Shehem Rashim, qui sont les deux principes. Il y a donc, je reviens, 70 noms, mais parmi ces 70 noms, avec ces 70 noms, il y en a deux qui sont particuliers, qui sont comme, c'est quoi dit les Rabbis, pour les 70 nations, il y a aussi deux autres nations particulières, je reviendrai sur leur définition tout à l'heure, et quand on dit ici nation, ça veut dire aussi génie culturel, langage comme véhicule, de ce à quoi vous avez fait allusion d'ailleurs ici, et ces deux noms, c'est Ani, vous voyez, ils vous sont mis avec des astériques, là je sais pas comment on appelle ça, il vous dit Ani, et c'est celui-là qui marche pas, hein. Ah non, très bien, Ani, on l'a mis comme ça, voilà. Bon, ceux qui connaissent un peu la liturgie de Rosh Hashanah, vous vous rappelez certainement de cette phrase, Ani Vahu Rosh Hashanah. Très très brièvement, lorsque Dieu se révèle en disant, en tant que sujet, je, c'est le mot Ani, lorsque Dieu se révèle à la troisième personne, et on parlera de lui à la troisième personne, c'est, il y a dans l'affirmation monothéiste que Dieu en tant que Ani, et Dieu en tant que vous est le même, il y a unité absolue. Mais il y a deux relations radicalement différentes, en partant de la créature, à Dieu qui se révèle en disant « je » et à Dieu qui se révèle de cette manière impersonnelle de laquelle on ne peut que dire « lui ». Est-ce que c'est suffisamment clair ça? Et il y a affirmation de l'unité « ani hu ». « Ani hu ». Je répète encore en hébreu. « Ani hu », c'est moi qui suis lui. « Ani hu ». Il y a unité entre Ani et dans cette invocation de l'appel au secours, Hosha'ana, en hébreu, ça veut dire sauve-nous. Lorsque c'est passé en français à travers le latin, puisque c'est l'hébreu, ça a pris un autre sens. Hosha'ana, ça a pris en français le sens de grande louange, quelque chose comme ça, le Hosanna. Non mais étymologiquement, comme vous le savez, ça veut dire sauve-nous. Alors l'invocation est simultanément à Ani et à vous. Sauve-nous en tant que Ani, en tant que celui qui s'est révélé à nous dans sa dimension de personne, de visage, qui parle au visage, celui qui est l'infini créateur, je dirais en hébreu, le Ensof se révèle comme Ani, et il est un je qui parle à mon je, personne à personne, sauve-nous en tant que Ani, sauve-nous en tant que vous, en tant que celui dont on dit lui. Si vous voulez, vous pouvez une petite parenthèse pour éclairer un peu plus en passant de l'hébreu au français simultanément. Il y a en fait, en hébreu, du point de vue de la grammaire officielle classique, deux genres. Le genre masculin, le genre féminin. En réalité, il y a aussi un genre, un troisième genre, que certaines langues connaissent, et qui est le genre neutre, qui est dans impersonnel. Je dirais autrement, le masculin correspond à la première personne, Ani, c'est la première personne, c'est au masculin. L'indice est que, tant un homme qu'une femme, lorsqu'il dit « je », dit le même mot, il n'y a pas de féminin à Ani. Toute position de première personne est masculine.